Bonsoir à tous. La réforme des retraites, les derniers arbitrages de l'exécutif ce dimanche avec des réunions à Matignon et ce soir autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Bras de fer sans compromis en vue cette semaine. L'exécutif déterminé à appliquer son projet. Les syndicats opposés au texte demandent son retrait pur et simple. On fera le point avec Maxence Lambrecq. Conséquence des grèves, le trafic sera encore très perturbé demain à la SNCF. Un TGV et un Transilien sur 5. À la RATP, 10 lignes de métro fermé. Au sommaire encore dans ce journal, Mayotte placée en alerte rouge avant le passage du cyclone Belna, les habitants confinés chez eux sur ordre du préfet. Une plainte pour non-assistance à personne en danger déposée contre le SAMU du Haut-Rhin après la mort en août d'un père de famille à Colmar. En Algérie, fin de campagne électorale sur fond de rejet massif avant la présidentielle de jeudi. Au même moment, lors d'un procès sans précédent, de lourdes peines sont requises contre d'anciens dirigeants du pays. Mike Horn, sauvé au pôle Nord, l'aventurier sud-africain et son coéquipier recueillis à bord d'un brise-glace norvégien. On écoutera le témoignage de la fille de Mike Horn. Après ce journal, Intersport avec Clément Comte, au sommaire entre autres. Le football, la Coupe de France, exploit de Dieppe qui a éliminé Lens, la fin de la 17e journée de Ligue 1 avec ce soir l'OM contre Bordeaux et le rugby, victoire de Toulouse contre Montpellier en Coupe d'Europe.
France Inter.
La semaine prochaine sera décisive, cruciale sur le dossier de la réforme des retraites. Demain après-midi, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, reçoivent les partenaires sociaux. Mardi, grève et manifestation à l'appel des syndicats. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe présente le texte. Jeudi, peut-être, une nouvelle journée de manifestation. Pour l'instant, pas de compromis en vue. Nous tiendrons jusqu'au retrait de la réforme dans laquelle il n'y a rien de bon. C'est ce que dit Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Quant à l'hypothèse d'une transition sur 10 ou 15 ans entre les régimes actuels et le futur système, Philippe Martinez dit « ce sera non ». Dans le JDD, Édouard Philippe se dit déterminé à mener jusqu'à son terme ce projet de retraite par points. Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd'hui, quelqu'un d'autre en fera une demain, brutale, vraiment brutale, prévient le chef du gouvernement. Maxence Lambrecq, bonsoir.
Bonsoir.
Pour préparer, organiser ce bras de fer des jours prochains, l'exécutif a multiplié les réunions ce week-end.
Oui, une série de réunions de consultation à Matignon et direction maintenant l'Élysée pour Édouard Philippe et les ministres impliqués dans cette réforme. Ils ont rendez-vous dans une demi-heure avec Emmanuel Macron qui doit donner le ton, fixer le cap, trouver le point d'équilibre avant de communiquer demain midi ses arbitrages au pilier de la majorité autour d'un déjeuner. Une majorité et des ministres qui n'en peuvent plus d'attendre. À l'image de la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon, elle aurait aimé qu'un simulateur de la réforme soit déjà en ligne.
En ne produisant pas de simulateur, finalement, on laisse penser ou on laisse s'exprimer ceux qui disent « tout le monde va y perdre ». Tout le monde ne va pas y perdre. Ça sera plutôt positif pour une partie significative des Français.
Plutôt positif, on a connu meilleure avocate. Le ministre des Finances joue, lui, sur France 3, le match contre la CGT. Bruno Le Maire cherche à l'isoler.
La CGT, elle n'est pas convaincue parce que elle défend ses troupes. Je pense que c'est la raison principale.
Elle ne défend pas les Français, elle défend ses troupes.
Je pense qu'elle défend plus ses troupes que les Français. Et quand Philippe Martinez parle de bras de fer, moi je l'invite à renoncer au bras de fer. Et je l'invite à entrer dans le dialogue.
Dans cette interview, Bruno Le Maire a l'air de confirmer l'abandon d'un recul de l'âge de départ. Ne soyons pas dogmatiques, dit-il, sur l'équilibre des finances publiques. Il ne faut pas être bêtement budgétaire, renchérit son collègue Gérald Darmanin. Cet abandon devrait permettre de renouer avec la CFDT et l'UNSA qui détiennent la clé de cette crise. L'exécutif devrait aussi définir ce soir la porte de sortie pour le monde enseignant. Autre préoccupation du gouvernement.
Maxence Lambrecq, à l'appel des syndicats, les grèves se poursuivent dans les transports publics. Le trafic SNCF sera encore très perturbé demain pour la 5e journée consécutive. Le détail des perturbations avec Agnès Augier, porte-parole de la SNCF, au micro de Kevin Dufraîche.
Pour ce qui est de TER, on est à une circulation sur trois, mais encore essentiellement en bus. Pour ce qui est de TGV, là aussi, on a une amélioration. On est à 19%. Sur Atlantique, on est à un train sur 4. Sur le Nord, on est à un train sur 4. Sur le Sud-Est, on est plutôt à un train sur 5. Mais avec un train sur 3 sur Paris-Lyon, qu'on a vraiment renforcé. Sur l'Est, en revanche, on n'a que 15% des trafics. Sur les intercités, la situation est toujours assez basse en termes de trafic. Néanmoins, on a un aller-retour Paris-Nevers et un Bordeaux-Marseille en plus, alors qu'on n'avait rien sur ces lignes-là. On a sur Transilien une légère amélioration, hein, puisqu'on sera à un train sur 5. Néanmoins, ce n'est pas du tout en cohérence avec le besoin qu'il y a sur un lundi normal. Et donc, on continue à recommander à nos clients de se reporter sur d'autres moyens de transport s'ils le peuvent.
Voilà pour la SNCF. Le trafic RATP sera extrêmement perturbé demain avec 10 lignes de métro fermées. La direction alerte sur un fort risque de saturation du réseau et invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements. Les lignes automatiques 1 et 14 du métro et la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport Port d'Orly fonctionneront normalement et toute la journée. Sur les lignes 4 et 7, il y aura un métro sur 3 uniquement aux heures de pointe, tandis que le trafic des lignes 8 et 9 sera assuré partiellement aux heures de pointe. Celui des RER A et B sera extrêmement perturbé. Plus de la moitié des bus rouleront. Le trafic des tramways sera perturbé avec des variations selon les lignes. Voilà ce que dit ce soir la direction de la RATP. On fera le point sur les conséquences sur les routes de ces grèves dans les transports à la fin de ce journal. Le numéro d'urgence du SAMU, le 15, une nouvelle fois mis en cause dans l'Est de la France. On se souvient, il y a 2 ans, de cette jeune femme de 22 ans morte aux urgences de Strasbourg après avoir été moquée au téléphone par une opératrice du SAMU alors qu'elle agonisait. Fin novembre, dans le territoire de Belfort, c'était le décès d'une retraitée victime d'un infarctus après 5 appels au SAMU. Sa famille a porté plainte. Nouvelle affaire donc, une plainte déposée contre le SAMU du Haut-Rhin pour non-assistance à personne en danger après le décès en août dernier à Colmar, d'un père de famille âgé de 49 ans. Sa famille reproche au SAMU de ne pas avoir mesuré l'urgence de la situation et de ne pas avoir envoyé de véhicule de secours. Enquête de Guillaume Schum de France Bleu Alsace.
Ce matin du 24 août à Colmar, alors qu'il se tord de douleur, c'est le colocataire de Joël Richard qui appelle le 15. Il précise que c'est urgent, que la personne qui vit sous le même toit a une indigestion. Dans l'enregistrement qu'ont écouté les Richard, on entend le père de famille hurler à côté. Au SAMU, on conseille d'appeler le médecin traitant ou d'aller à la maison médicale de garde qui ouvre à 16h. Or, il est 10h et le colocataire explique qu'il n'a pas de moyens de locomotion. L'homme de 49 ans décédera quelques heures après l'appel au 15 d'une occlusion intestinale. Cynthia Richard, la fille de la victime, ne comprend pas pourquoi aucune ambulance ne s'est déplacée, qu'aucune offre de transport aux urgences n'a été proposée par le SAMU.
Comme la ARS nous a dit, ils ont assez de monde, ils ont assez d'argent pour venir, donc pourquoi ils ne l'ont pas fait? Juste d'avoir une chance d'être transporté à l'hôpital et voir ce qu'il avait, parce qu'en fait, le colocataire a donné son diagnostic, mais le SAMU, lui, ne l'a pas fait. Ils n'ont pas reposé vraiment des questions, mis à part est-ce que vous êtes allé au WC, est-ce que vous avez vomi, c'est tout ce qu'il lui a posé comme question.
La famille Richard est toujours dans l'attente, personne ne les a reçus à Mulhouse, mais ils ont eu un entretien à l'agence régionale de santé. Le frère de la victime, Noël Richard, a écrit à la ministre. Elle a confirmé qu'une enquête administrative a été ouverte. Les Richard attendent des explications pour faire leur deuil.
Guillaume Schum de France Bleu Alsace. Mayotte, île française de l'océan Indien, placée en alerte rouge par Météo France. Elle se prépare à faire face au passage du cyclone Belna dans la soirée. Le préfet du département appelle les habitants à se mettre à l'abri et ne sortir en aucun cas. La préfecture a décidé la fermeture de l'aéroport. Les habitants sont invités à faire des réserves d'eau dont la distribution a été coupée à l'heure du déclenchement de cette alerte rouge à Mayotte. Voici le témoignage recueilli par Alexis de Meyer de Philippe. Il est professeur à Mayotte et là, il est confiné chez lui.
C'est vraiment calme plat. D'habitude, c'est animé, hein, ici. Il y a des mouvements. Je pense qu'il doit y avoir des sortes de rondes. Si tu sors, on te conseille fortement de rentrer chez toi. Quand même. C'est vrai qu'on n'entend personne. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau. On nous a coupé l'eau, en fait, parce que des pompes électriques, tout ça, risque de souffrir à cause de l'orage, du vent, etc. Donc, s'il était ouvert, si c'était endommagé, il y aurait pour 3 semaines de privation d'eau. Je ne suis pas spécialement inquiet, encore que je n'ai jamais connu ça et... Ce qu'ils annoncent, c'est quand même assez effrayant. Mais c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude par rapport à une bonne partie de la population ici. Les gens qui habitent dans des habitats précaires, dans des bangas qui sont en tôle, qui sont fixés comme ça, à l'arrache, quoi, sur des terrains pentus et avec un dénivelé très important. Et les bangas à Kongou ou à Kaweni, ils sont construits à flanc de colline dans la bouillasse, quoi. Une fois que ça se met à dévaler, la flotte coulant là-dedans avec le vent, c'est ça le danger.
Voilà, au micro d'Alexis de Meyer, cet enseignant à Mayotte, Philippe, qui attend l'arrivée de ce cyclone à Mayotte. Le cauchemar est terminé pour Mike Horn dans l'Arctique. L'aventurier sud-africain et son compagnon d'aventure norvégien sont maintenant à bord du brise-glace envoyé pour les sauver. Les deux hommes ont bien failli mourir de faim et d'épuisement dans l'Arctique. Leur expédition s'est révélée plus compliquée que prévu. La fragilité de la glace à cause du réchauffement climatique les a forcés à choisir un itinéraire plus long. Ils ont passé 85 jours dans la nuit polaire. La fille de Mike Horn, Annika, a pu joindre l'équipage qui a sauver son père. Les nouvelles sont plutôt bonnes, elle le dit à Fanny Lechevestrier.
D'après les nouvelles que j'ai reçues de l'équipe qui sont avec lui sur le bateau norvégien, tout va bien, ils rigolent, ils sont de bonne humeur, ils racontent déjà plein d'histoires. Je pense qu'ils sont très très heureux de voir du monde. Bon, bien sûr, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, puis ils se réjouissent énormément de manger un très bon plat chaud. Quand je lui ai parlé il y a quelques jours au téléphone, il m'a dit que là, ils ont même plus de muscles, qu'ils ont perdu toute leur graisse et qu'ils sont vraiment au bout de leur énergie. Je pense que même s'ils auraient voulu, même s'ils avaient plus de rations de nourriture et qu'ils auraient voulu continuer, je pense qu'au bout d'un moment, leur état physique leur aurait plus permis de pouvoir continuer. Donc, je suis très, très contente qu'ils soient arrivés à la fin de leur ration, mais aussi à la fin de leur expédition, en fin de compte, sans assistance, parce qu'ils ont vraiment utilisé toute leur ration et en fin de compte, ils n'ont pas du tout utilisé le ravitaillement et le vivre supplémentaire que les deux Norvégiens, Alex et Bengt, ont apporté avec eux en allant à leur rencontre.
La fille de Mike Horn avec Fanny Lechevestrier. Élection présidentielle jeudi prochain en Algérie. 5 candidats en lice, tous des proches de l'ancien président Bouteflika. Conséquence, ce scrutin est rejeté par une large part des Algériens qui y voient une mascarade électorale organisée par l'armée. Ils manifestent chaque semaine par dizaines de milliers dans le pays pour refuser ce vote. On s'attend à une forte abstention jeudi. Dans le même temps, se déroule un procès sans précédent depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Le procès d'anciens hauts dirigeants politiques, dont deux ex-premiers ministres et des hommes d'affaires accusés de corruption. Le procureur a réclamé contre eux de très lourdes peines d'emprisonnement. À Alger, Leïla Berato.
Le procureur du tribunal de Sidi Mohamed a requis 20 ans de prison contre les deux anciens premiers ministres, Ahmedou Yahya et Abdelmalek Selal, ainsi que contre Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, qui est ensuite à l'étranger. Il a également requis 15 ans de prison pour d'anciens ministres, 10 ans pour l'ancien patron des patrons, Ali Haddad, les chefs d'entreprise et le chargé de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Ces anciens responsables sont jugés pour financement occulte de la campagne du 5e mandat de l'ancien président et pour avoir octroyé ou bénéficier davantage dans le secteur du montage automobile. C'est le secteur industriel qui avait été développé par les autorités ces 5 dernières années. Le procureur a également demandé la confiscation de l'ensemble des biens et de l'argent mal acquis, la perte des droits civiques pour ceux qui occupaient un poste de fonctionnaire. Pourtant, il reste des questions dans cette affaire. Deux patrons en détention provisoire, des figures importantes du montage automobile, n'ont pas été appelés à la barre. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
En Inde, au moins 43 personnes sont mortes à New Delhi, piégées dans l'incendie dévastateur d'une usine fabriquant des cartables, également utilisés comme dortoirs pour des ouvriers. L'incendie s'est déclenché aux premières heures de la matinée dans un quartier ancien et surpeuplé de la capitale indienne. Retour en France avec un distributeur de billets très généreux pendant quelques heures. C'était hier soir à Marseille. Le distributeur automatique s'est déréglé. Résultat, il donnait le double de la somme demandée. C'était un peu la magie de Noël avant l'heure. À Marseille, récit Caroline Félix.
Imaginez, vous demandez par exemple 20 euros au guichet, il vous en donne 40, deux billets pour le prix d'un. Ça s'est passé pendant quelques heures hier soir dans un distributeur du 14e arrondissement de Marseille. Vous vous en doutez, les habitants se sont passé le mot. L'adresse du généreux guichet, caisse d'épargne avenue du Merlan, circule sur les réseaux sociaux. Résultat, certains tweets témoignent, je cite, d'une queue de fous furieux, une centaine de personnes devant les deux guichets à minuit. Ça provoque une petite pagaille, la police finit par intervenir pour sécuriser les lieux et empêcher d'autres retraits. D'après la police, il s'agit probablement d'une panne informatique. La caisse d'épargne devrait visionner les images de vidéosurveillance pour évaluer le préjudice. En tout cas, c'est une panne qui fait du bien au portefeuille à quelques jours de Noël.
Caroline Félix, à Marseille, on revient sur les perturbations en raison des grèves dans les transports publics. La circulation est chargée ce soir. Julie Paco est au PC Mobilité. Bonsoir Julie.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Il y a des bouchons en Ile-de-France et aussi autour de Lyon.
Oui, ce soir la circulation est saturée sur l'A6 depuis Écully jusqu'à Lyon. Circulation également ralentie sur l'A42 dans le sens Genève-Lyon à hauteur de Néron. Notez qu'en raison d'un épisode de pollution de l'air dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère, vous devez réduire votre vitesse de 20 km. Des difficultés de circulation sont aussi observées aux abords de Toulouse ce soir, avec un bouchon assez important sur l'A62 au nord de la ville, mais également sur l'A64 au sud pour accéder au périphérique toulousain. Situation encore plus compliquée évidemment à Paris. 240 km de bouchons cumulés, c'est encore loin des records, mais c'est beaucoup pour un dimanche soir à 7h. Deux axes sont particulièrement saturés, l'A86 au sud et l'A4 à l'est dans le sens Strasbourg-Paris après le Collégien. La circulation s'annonce d'ores et déjà très très compliqué pour demain matin car toutes les lignes de métro seront fermées et qu'un seul Transilien sur 5 est annoncé. Alors pour tenter de fluidifier la circulation, les voitures faisant du covoiturage et transportant au moins 3 personnes seront autorisées à circuler sur les voies de bus dès demain 5h du matin.
Merci Julie Paco, PC Mobilité, les couleurs du ciel demain.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poule en liberté. Loué, libre par nature.
Et on retrouve Jean-Michel Golinski de Météo France.
Du vent fort ce soir et la nuit prochaine sur les départements proches de la Manche et de l'océan. Fort heureusement, les coefficients de marée sont bas car la mer sera grosse avec de très fortes vagues. Demain, le vent va encore faire parler de lui avec des rafales proches de 100 km/h sur les littoraux, y compris ceux de la Méditerranée, souvent 80 dans l'intérieur du pays, du vent qui va maintenir un ciel sec du golfe du Lion à la Provence. En revanche, partout ailleurs, il sera difficile, voire impossible d'échapper au régime d'averse, d'orage et de neige en montagne où le vent sera très fort, avec des quantités de neige fraîche de l'ordre de 60 cm sur les Alpes du Nord et un risque marqué d'avalanche. Remarque pour terminer sur une note positive, demain après-midi avec la hausse du baromètre sur le quart nord-ouest, le vent et les averses vont commencer à s'estomper.
Jean-Michel Golinski et maintenant l'actualité sportive. Intersport, le journal des sports avec Clément Comte. Bonsoir Clément.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors Clément, avant d'aller au Vélodrome, on parle de ce nouvel exploit en Coupe de France de football.
Oui, un petit qui fait tomber un gros, c'est ça la magie de la Coupe. Après Hombourg haut hier face à Auxerre, c'est le FC Dieppe qui fait sensation. Les Normands ont battu le Racing Club de Lens cet après-midi dans ce 8e tour. 3 divisions d'écart entre les deux et forcément dans les vestiaires, c'était la fête.
Est-ce son père ? Non ! Est-ce son père ?
Non !
Voilà, etc. Le score 2-1, une fierté pour le capitaine normand Florian Levasseur.
C'est juste magnifique, c'est vrai que le stade il était rempli, l'atmosphère elle était géniale, enfin, ce sera inoubliable et on rentre dans l'histoire du club. On remène rapidement, on met le deuxième aussi rapidement, eux ils rentrent un peu plus fort, ils arrivent à nous mettre un but et on est costaud derrière, donc c'est le principal. C'est difficile, je pense que le cœur il en prend un coup, mais on essaie d'être costaud, alors on se raccroche aux potes d'à côté, aux frères d'à côté. Et on tient quoi, jusqu'au bout.
Rendez-vous donc en 32e de finale au prochain tour pour le FC Dieppe avec les clubs de Ligue 1. Pour le reste de l'après-midi, pas de surprise dans cette Coupe de France. Ça passe notamment pour Valenciennes face à Tourcoing et pour Le Mans face aux Herbiers. Hiérarchie respectée.
Clément, Marseille face à Bordeaux, c'est l'affiche de la 17e journée de Ligue 1 de football.
Le deuxième contre le cinquième. Ce soir, l'OM peut se rapprocher un peu plus du leader parisien. Bonsoir Fabrice Michelier en direct du stade Vélodrome. Fabrice, les Marseillais ont un bon coup à jouer ce soir.
Oui, effectivement, Clément, l'OM a une belle carte à jouer ce soir face à un concurrent direct dans la course au podium. Les Marseillais deuxièmes avant ce match, certes, ils pointent à 8 points de Paris le leader, mais là n'est pas vraiment l'objectif des hommes d'Andrés Villas-Boas qui souhaitent avant tout creuser l'écart avec leur poursuivant. Lille est revenu à 3 points avec sa victoire de ce week-end. Un succès ce soir permettrait donc à Marseille de reprendre 6 points d'avance sur les nordistes, mais aussi de reléguer les Girondins à 8 unités, leur adversaire du soir. Alors qui aurait pu dire ça finalement fin octobre, quand l'OM s'était lourdement incliné au Parc des Princes face au PSG, 4-0 rappelez-vous. Cette gifle a finalement agi comme un électrochoc pour les Marseillais depuis. Payet et ses coéquipiers brillent et enchaînent les victoires avec une série de 5 victoires de rang face notamment à Lille, Lyon ou encore Angers cette semaine. L'OM a donc retrouvé de la confiance et de l'efficacité, ce qui lui permet de rêver à une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Enfin, serait-on tenté de dire.
Alors, petite ombre au tableau, Fabrice, à Marseille va devoir faire ce soir sans son meilleur buteur, Benedetto, est forfait.
Ouais, c'est le coup dur, hein, de la soirée. Selon les dernières informations que l'on a pu avoir, l'Argentin serait forfait en raison de douleurs musculaires, lui qui a déjà marqué 6 buts depuis son arrivée. Mais son influence ne se limite pas seulement à ses réalisations. Pipa, comme il est surnommé, pèse sur les défenses et sert de point de fixation à son équipe et permet de libérer des espaces à ses coéquipiers, dont Dimitri Payet. Mais ce soir, donc, il faudra composer sans lui. Et c'est Valère Germain qui revient dans le jeu et qui aura la tâche de le suppléer. Le Marseillais de naissance est relégué sur le banc depuis quelques temps, alors à lui de prouver qu'il peut être plus qu'une alternative à Dario Benedetto et ainsi augmenter son compteur but bloqué pour l'instant à 2 unités.
Merci Fabrice Michelier, bon match. Coup d'envoi de Marseille-Bordeaux, c'est à 21h. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Nantes a battu Dijon 1-0 et le Stade de Reims a battu Saint-Etienne 3-1. Au classement, Paris est donc toujours leader. Le dauphin, c'est l'Olympique de Marseille, c'est Lille qui complète ce podium. Tout en bas du classement dans cette Ligue 1, Toulouse est dernier, avant-dernier Nîmes et la place de barrage provisoire pour le FC Metz.
Clément Comte, en Coupe d'Europe de rugby, le duel franco-français tourne à l'avantage des Toulousains.
Face à Montpellier, c'était la troisième journée des phases de poule. Victoire 23-9 donc des Toulousains. Une rencontre qui ne restera pas forcément dans les annales, Alain Gastal.
Les deux équipes françaises qui visent à juste titre la qualification pour les phases finales ne manquaient pas de belles intentions de jeu, mais elles ont été vite contrariées par la météo, une pluie battante et un ballon glissant qui provoque un festival d'en avant et de ballons perdus et va favoriser les défenses au détriment des attaques à ce petit jeu. C'est Toulouse qui s'en sort le mieux grâce à la botte de Ramos et un essai opportuniste de Romain Tamac qui permet aux Toulousains de mener 13-3 à la mi-temps. Mais Montpellier ne renonce pas et revient dans la partie. Le poteau renvoie même une pénalité de Stein qui aurait permis aux Montpellierains de revenir à 13-9. C'est finalement un essai sur une interception de Romain Tamac, encore lui, qui sera le tournant du match et qui permet à Toulouse de s'imposer finalement 23-9. Toulouse avec 13 points et 6 d'avance sur Gloucester et d'ores et déjà en pole position pour jouer encore une fois les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Ce sera infiniment plus compliqué désormais pour Montpellier. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Les clubs français plutôt bien partis dans cette Coupe d'Europe. Après 3 journées, le Racing 92 et Toulouse sont en tête de leur poule. Clermont est deuxième de la sienne.
En handball, les Françaises vont bientôt de retour au pays, Clément.
Et oui, tout simplement. Après leur élimination au Mondial au Japon, il restait 2 matchs à jouer pour les Bleus. Le premier, c'était ce matin. Victoire des Tricolores face à l'Angola, 28-17. Le deuxième, c'est demain face à la Hongrie. L'enjeu, si on peut parler d'enjeu dans ces cas-là, eh bien c'est la 13e place. Évidemment décevant. Jean-Pierre Blimeau, vous êtes sur place au Japon. Est-ce qu'on peut parler d'un fiasco finalement pour cette équipe de France ?
Oui et non, Clément. Oui, car l'équipe de France, médaillée en argent à Rio, championne du monde et d'Europe en titre, sortie par la petite porte dès le premier tour, ça fait désordre. Oui, car la qualité du jeu affiché a été très en deçà des espérances. Mais on peut nuancer. D'abord, il y a la thèse de l'accident, plaidée notamment par la nouvelle capitaine, Amandine Lénaud. La défense n'a d'ailleurs pas sombré. Exemple, les 2 défaites qui ont fait plonger les Bleus ont été concédés par 2 buts d'écart seulement. Et puis parce que les Françaises se sont retrouvées par moments, comme lors de ce match gagné de haute lutte face aux Allemandes. Dans le staff, Olivier Crumbles a aussi pris les devants en écartant par exemple Camille Aiglon, l'une des joueuses historiques pendant la compétition. Des jeunes sont entrés en lice, on pense notamment à la gardienne Catherine Gabriel ou aux 2 arrières Océane Sercien-Hugolin et surtout Orlane Canor qui se sont retrouvées toutes les 3 lors du dernier match contre le Danemark. On les a revues aujourd'hui face aux Angolaises. Elles sont peut-être le symbole d'une jeune génération qui veut et qui peut prendre le relais. En tout cas, le temps presse. Dans moins de 8 mois, il y a les JO de Tokyo et les choix vont être cruciaux.
Et justement, on attend beaucoup des Françaises dans ces Jeux Olympiques. Et pour leur entraîneur Olivier Crumbles, ça cogite forcément parce qu'il va falloir faire des choix. Certaines habituées pourraient ne pas faire partie du voyage. Écoutez.
Ce qui arrive à l'équipe de France arrive à toutes les équipes. Aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas ce qu'il faut pour faire un grand championnat du monde, il faut se le dire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas forcément dramatiser, mais tirer les enseignements et repartir, mais il faudra repartir différemment, hein, ça c'est clair. Il y a des joueuses qui sont en difficulté dans la compétition et on va débriefer avec elles. La question c'est, sur certaines performances, il y a des filles qui n'ont pas eu le niveau nécessaire pour jouer en équipe de France sur cette compétition. C'est elles qui doivent se poser la question de savoir est-ce qu'elles sont capables d'infléchir une tendance ou manifestement leurs performances ont baissé, voire chuté.
Les Françaises débuteront leur préparation en mars prochain. En janvier, eh bien, ce sont les garçons qui entreront en lice pour le championnat d'Europe.
Clément, je crois qu'on peut le dire, elles n'ont pas brillé autant que les garçons hier.
Oui, l'équipe de France féminine de biathlon a terminé 6e de son relais à Östersund en Suède cet après-midi. Anaïs Bescon, Chloé Chevalier, Julia Simon étaient pourtant dans la course pendant les deux premiers relais. Elles se sont fait distancer sur le final et elles terminent à plus de 2 minutes des Norvégiennes premières. La Coupe du Monde de biathlon reprend vendredi prochain. Pierre, je vous propose de partir à Oman dans ce journal avec tous nos auditeurs. Oman coincé entre le Yémen, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Vous le savez, qui dit sport dit épanouissement. Le sport, ça permet souvent de sortir de sa condition, ça permet de s'épanouir. Eh bien, exemple avec ce portrait de Nadira Alarsi. Elle fait de la course à pied et de l'escalade et elle se bat pour être tout en haut dans ces deux disciplines. Jérôme Val l'a rencontrée. Nadira Alarsi a été la première Omanaise à gravir l'Everest en mai dernier. Elle est aussi l'une des pionnières dans les courses à pied extrêmes. L'an passé, au départ de l'Ultra Trail d'Oman, l'une des épreuves les plus dures au monde, elle n'était que 2 Omanaises. Cette année, elles étaient plus nombreuses et ça ne devrait pas s'arrêter là, espère la jeune femme.
Parfois, on pense qu'on n'est pas capable de relever des défis. Mais quand on voit les autres faire, on se dit, pourquoi pas moi? Et donc les filles ici se mettent à courir et s'encouragent mutuellement.
Foulard sur la tête, grand sourire, Nadira Alarsi explique qu'elle a dû surmonter de nombreux obstacles pour chausser des baskets et s'entraîner sur les chemins rocailleux d'Oman, et notamment les réticences de sa propre famille.
Sur le moment, ma famille a refusé. Normalement, les femmes omanaises portent une longue tunique noire qui couvre toutes les parties du corps, et quand je cours, je ne peux pas m'habiller comme ça. Mais j'ai dit à mes proches que je voulais courir et faire ça en plein air, pas dans une salle. Face à ma détermination, ils ont fini par accepter.
Aujourd'hui, c'est proche. L'encourage au point que Nadira Alarsi est devenue un emblème pour la condition féminine.
Que ce soit moi ou d'autres jeunes filles, leur famille devrait les encourager à faire ce qu'elles veulent, même si ça ne leur plaît pas. Et c'est bien de réaliser son rêve, même si c'est dur. Les gens me demandent « Mais pourquoi tu fais quelque chose d'aussi difficile ?» Je leur réponds que c'est simplement ce que je veux faire.
Elle travaille au ministère omanais de l'éducation nationale, mais elle a déjà un autre projet en tête, devenir la première femme professeure d'escalade dans son pays.
Allez, retour en France à Paris, porte de Villepinte. Le salon du cheval vient juste de fermer ses portes dans un contexte un peu particulier. C'est quelque chose qui ressort beaucoup ces derniers temps. Les associations de défense des animaux s'interrogent sur le bien-être du cheval, l'équitation. Est-ce que c'est bon pour l'animal? Laetitia Bernard s'est penchée sur la question.
Comment être sûr que le cheval se sent bien dans son écurie, que son mode de vie correspond à ses besoins? Toutes ces questions émergent de plus en plus et la filière équine prend le problème à bras-le-corps. Antoine Siniger, directeur général du pôle international du cheval de Deauville.
Il faut peut-être faire passer un message un petit peu plus précis en disant que le cheval adhère à ce qu'on va lui faire faire, parce que sinon ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et pour le faire adhérer, il faut s'en occuper.
Depuis 2016, une charte pour le bien-être équin a été signée. Plusieurs labels ont été créés. Sont prises en compte les sorties au pré, la vie en groupe, sinon gare aux chevaux dépressifs, l'accès au foin, à l'eau bien sûr. Des bonnes pratiques que les amoureux des chevaux veulent faire connaître et toujours améliorer. Vous n'imaginez pas tout ce qui existe déjà. Il suffit de se promener dans les allées du salon du cheval. Jessica Gordon, directrice de l'événement.
L'ostéopathe va pouvoir montrer quel est son travail, quels sont ses bienfaits sur le cheval. Pareil, on a du shiatsu équin. L'année dernière, on avait mis en situation de la balnéothérapie pour chevaux. Ça s'est développé. Ils ressortent, ils ont les oreilles à l'horizontale, tellement ils sont contents.
Prochaine étape, un nouveau diplôme détenteur d'équidés pour les particuliers avec une formation qui sera mise en place dans quelques mois.
L'équitation et le bien-être des chevaux. Oui. Enquête de Laetitia Bernard. C'était la dernière page d'Intersport présentée ce soir par Clément Comte. Merci Clément.
Merci beaucoup Pierre.